Alors, je vous invite à prier le Seigneur avec moi ce matin pour, dans un premier temps, pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Et aussi, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on puisse intercéder en faveur de ceux qui sont affectés par la COVID-19. Et dans un dernier temps, j'aimerais implorer le Seigneur pour sa bénédiction pour cette célébration que nous avons ensemble ce matin. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te Nous venons à toi dans la prière devant ton trône de grâce pour premièrement te remercier pour cette célébration de la fête de Pâques qui nous rappelle la mort de Jésus sur la croix et la victoire de sa résurrection. La plus grande de toutes les victoires, cette victoire sur la mort à la croix pour nous purifier de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton bien-aimé Fils qui est mort en traversant sur la croix à notre place la plus grande crise de toute l'humanité. Lui saint et le juste, sans péché, qui fut crucifié pour nos péchés. Lui innocent pour nous coupables. Seigneur, nous te prions, te remercions pour cette possibilité de se rassembler virtuellement par la technologie et se souvenir de cet événement, de la croix et du tombeau vide qui change tout. Seigneur, maintenant nous voulons intercéder tous ensemble en faveur de nos autorités. Seigneur, on veut prier spécialement pour le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec. Seigneur, que tu leur donnes la force, la sagesse et le courage de prendre les bonnes décisions. Et aussi, Seigneur, on veut prier d'une façon toute spéciale pour François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, et aussi pour Jean Boulay, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité et du Travail. Seigneur, on veut te prier pour toutes ces personnes-là. On veut prier aussi pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. On veut prier non seulement pour le directeur de la santé publique, la ministre de la santé, mais tous ceux qui œuvrent dans le secteur hospitalier. On veut penser aux médecins, on veut penser aux inhalothérapeutes, aux infirmiers, aux infirmières, aux infirmiers et infirmières auxiliaires, ceux qui s'occupent, les préposés aux bénéficiaires, ceux qui s'occupent de l'administration, ceux qui s'occupent de l'entretien, tous ceux, Seigneur, qui sont en première ligne au front. On veut intercéder d'une façon toute spéciale ce matin pour eux. Et aussi, Seigneur, on veut prier pour tous ceux qui sont dans les services essentiels. Seigneur, aussi, on veut prendre un moment encore plus intense pour te prier pour tous ceux qui sont affectés de près ou de loin par la COVID-19. Seigneur, on veut te prier pour les personnes âgées, les personnes qui sont affligées ou fragilisées par la maladie. Et ce matin, d'une façon toute spéciale, nous voulons te prier pour tous ces CHSLD qui sont en problème et aussi pour toutes ces résidences de personnes âgées. Seigneur, tu vois la souffrance qu'il y a dans ces endroits-là, tu vois la détresse, tu vois aussi toute la tristesse des gens, des familles, des proches qui sont atterrés par ça. Seigneur, on te demande de les secourir d'une façon toute spéciale. Tous ceux qui souffrent de l'anxiété et de l'isolement, Seigneur. Ta parole nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, Seigneur, on veut prier pour eux qui sont affectés par cette maladie de la COVID-19. Aussi, tous ceux qui souffrent dans leur corps pour toutes sortes d'autres raisons. Aussi, Seigneur, on veut te prier pour ceux qui sont affectés économiquement, pour ceux qui ont perdu leur emploi, pour ceux qui ont des problèmes financiers. Nous voulons intercéder tous ensemble, Seigneur, pour ces personnes. Merci, Seigneur, que nous pouvons trouver en toi notre refuge, notre appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, merci pour cette opportunité extraordinaire d'être réunis ensemble pour te prier qu'en ce jour de célébration de la résurrection du Seigneur Jésus, nous puissions manifester notre joie et notre amour en action. Oui, Seigneur, viens remplir nos cœurs ce matin, viens nous toucher d'une façon toute spéciale par ta parole. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour notre frère Frédéric, ton serviteur qui va ouvrir ta parole, que tu puisses lui venir en aide à communiquer ces vérités de l'Évangile. Oui, Seigneur, nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
Alors, bonjour tout le monde. Ça fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Merci, Joël, de l'invitation. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner dans le livre de l'Exode. Et je me demande si vous avez entendu parler du coronavirus. Si vous en avez pas entendu parler, bien, c'est un nouveau virus qui attaque les poumons. Et personne n'est vraiment à l'abri. Donc, les gens plus âgés, plus vulnérables, qui ont des conditions médicales, sont évidemment plus à risque que d'autres. Mais cela affecte tout le monde et à tel point que le monde entier pratiquement est arrêté ces temps-ci. Les activités humaines sont limitées, les activités commerciales sont limitées, les activités auxquelles on est habitué sont arrêtées. Guy priait tout à l'heure pour les gens qui ont perdu un emploi et depuis 3 semaines, simplement aux États-Unis, on parle de 17 millions d'emplois qui sont disparus. Et si ça continue, là, ben ça va continuer à monter dans les dizaines de millions d'emplois. Ici même au Canada, plus qu'un million de personnes sont tombées sans emploi et ça crée vraiment des problèmes et des difficultés évidemment. Mais avant tout, ce que ça fait, c'est que ça met les gens face à leur propre mortalité. C'est pour ça que on prend des mesures aussi extrêmes, c'est parce que ça nous met face à la réalité que on peut mourir. Et face à ça, les gens ont plusieurs réactions. Beaucoup de gens sont dans la crainte, beaucoup de gens sont dans la peur. Et c'est à cause de ça aussi que nous sommes ici ce matin, réunis de façon virtuelle. Donc, je suis ici tout seul avec mon fils qui est venu avec moi, mais la salle est vide et je sais qu'ailleurs, c'est la même chose. On est tous réunis par un moyen virtuel et c'est à cause de ceci, de ce virus, de cette situation, des interdictions que nous avons. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous réunit ce matin, c'est notre salut, c'est la rédemption, c'est l'acte de Jésus-Christ à la croix, de s'être sacrifié pour nous. Et évidemment, nous sommes ici pour célébrer la résurrection, de se rappeler de cet événement historique qui a vraiment tout changé. Et donc, je suis très content d'être avec vous. C'est un honneur pour moi de partager la parole ce matin. Et c'est merveilleux dans un sens, mais dans un autre sens, c'est un peu comme un mariage sur Facebook. Si on célébrait un mariage ce matin, on voudrait tous être à la même place, on voudrait tous être en train de participer ensemble à un mariage, à l'échange des vœux, de voir la robe de la mariée, de les toucher, de manger ensemble et tout ça. Donc, il y a un aspect très convivial d'une cérémonie de mariage et je dirais même de la vie de l'Église. Et je le répète continuellement ici à l'Église Vie Nouvelle depuis que ça a commencé, c'est pas normal pour nous de pas être ensemble et c'est une épreuve toute particulière. Donc, je vous encourage vraiment de persévérer dans tous les moyens de fraternité que vous pouvez trouver en respectant les consignes. On n'a pas le choix, évidemment, de toute façon. Et donc, la première considération que j'aimerais amener ce matin, c'est que le christianisme règle notre plus grand problème. Et c'est quoi notre plus grand problème? C'est la mort. Donc, le christianisme adresse de front le plus grand problème de l'humanité. Évidemment, ça remonte à Genèse, à la création, quand Dieu a dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien » et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors voilà la parole de Dieu qui est donnée à Adam. Et le diable arrive et contredit la parole de Dieu. Et il dit, mais non, tu n'en mourras pas. Voyons, Dieu, il te retient quelque chose de bon. Et finalement, Adam et Ève pêchent. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Et si vous lisez dans la Genèse, jusqu'à la fin du livre de la Genèse et même toute la séquence jusqu'au déluge et jusqu'à Noé, à chaque fois qu'on arrive à la fin de la vie d'un de ces patriarches-là, eh bien, il est écrit « et il mourut ». C'est comme un écho à chaque fois à ce que Dieu a dit, mais aussi à ce que le diable a dit. Dieu a dit « tu vas mourir », le diable dit « tu mourras pas », et maintenant, l'actualisation du péché dans l'humanité se fait. Et à chaque génération, il y a cette phrase, à chaque fois, c'est, C'est comme une cloche qui sonne, là. Ding, ding, et il mourut, et il mourut, et il mourut. Et la mort est une conséquence d'une réalité spirituelle. Elle n'est pas strictement physique et naturelle. Elle est le résultat du péché. Et bien qu'elle soit toujours terrifiante, et elle fait encore peur lorsqu'on arrive à ce dernier moment, même nous, chrétiens, ça peut nous saisir. Mais la foi chrétienne déclare que je peux mourir avec paix. Maintenant, je suis habitué à faire des réunions Facebook depuis un certain temps. Et donc, quand je demande aux gens de dire « Amen », ils pèsent sur le pouce. Mais si vous voulez dire « Amen », vous pouvez sauter sur votre clavier puis écrire « Amen ». Vous pouvez même écrire « Alléluia ». Donc, ça donne une chance à tout le monde d'interagir, d'avoir un petit contact ensemble. Donc, la foi chrétienne déclare que je peux mourir en paix parce que j'ai l'assurance d'un salut parfait accompli par Jésus-Christ crucifié et confirmé au-delà de tout doute raisonnable par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Là, c'est le temps de dire « Amen » parce que c'est toute une déclaration qui englobe le cœur de ce message ce matin. Et c'est pour ça que les chrétiens, le jour de Pâques, célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Mais à chaque fois que je dis le mot « Pâques », je suis conscient qu'il y a un problème de langage. Et avec Pasteur Joël, à deux gars, une Bible, c'est une des choses qu'on fait souvent, juste de clarifier les termes, parce que le diable est le maître de la confusion et le maître de l'ambiguïté. Et dans ce terme ici, quand on utilise « Pâques » pour parler de la résurrection, bien, il y a une ambiguïté qui est créée dans nos esprits. Et même ce matin, quelqu'un m'envoyait une question par texto et dit « C'est quoi la différence entre Pâques avec un S puis Pâques sans S? » C'est parce qu'on essaie de distinguer la Pâques juive de la Pâques chrétienne en mettant un S à la Pâques chrétienne et pas de S à la Pâques juive. Mais déjà là, Pâques juive, Pâques chrétienne, le même mot pour signifier deux choses différentes. Et donc, même dans la presse cette semaine, avec tout ce qui se passe au niveau de l'économie, il y avait un article qui a attiré mon attention sur le prix des agneaux. Et voilà ce que ça disait. L'agneau est avant tout une viande de célébration. Les élevages sont planifiés en fonction des fêtes de Pâques et du Ramadan, où la demande est la plus élevée. Cette année, les Pâques juives et chrétiennes, y compris orthodoxes, surviennent à peu près au même moment. Et encore, voilà l'ambiguïté ici. Il y a deux Pâques, le même mot pour déterminer deux fêtes qui sont très différentes. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7, c'est clair qu'il y a un lien entre Christ et la Pâque, mais on a besoin de clarifier ce lien-là dans nos esprits. Et Paul déclare ceci, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et quand Paul ici fait référence à Christ comme étant notre Pâque, il plonge dans l'Ancien Testament et non pas dans le concept de la résurrection. Les deux sont attachés, mais quand on parle de Christ, notre Pâque, on parle d'une autre notion. Et donc, quand les Juifs, eux, célèbrent la Pâque, ils célèbrent la mémoire de la libération de l'esclavage en Égypte, mais quand les chrétiens fêtent la Pâque avec un S, on fête la résurrection. Donc, ce sont deux notions attachées, sont liées évidemment, là, mais sont quand même assez différentes. Et donc, la première chose que j'aimerais faire pendant quelques instants, c'est un petit exercice de désambiguïsation. Donc, même le mot lui-même est difficile à dire. Et donc, le mot Pâques, pour ceux qui connaissent peut-être un peu l'hébreu, c'est le mot pécha en hébreu qui veut dire littéralement passer par-dessus. D'où le mot anglais, la traduction anglaise de cette fête de la Pâque juive, que nous en français on dit la Pâque juive, les Anglais ont traduit la Passover. Et là, il y a un élément de clarté qui s'installe automatiquement. Ils ont un autre mot pour la fête chrétienne qui est Easter, mais qui est un tout autre sujet en lui-même. Et donc, la question qu'on veut soulever ce matin, la réflexion qu'on veut faire, ou que je vous invite plutôt à faire ce matin, c'est de quelle manière Christ est notre Pâque, ou, pour être plus clair, de quelle manière Christ est notre passe-outre, ou passe par-dessus, de quelle manière Christ est notre Passover, pour utiliser le mot anglais. Et on va prendre un instant pour se tourner dans le livre de l'Exode pour regarder ensemble cette histoire de la délivrance du peuple d'Israël qui a été en esclavage pendant 400 ans. Dieu suscite Moïse, le libérateur. Il va voir Pharaon, dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple ». Pharaon refuse et ensuite Dieu commence à dealer avec l'Égypte en envoyant une série de plaies, les unes plus graves que les autres, pour culminer finalement un jugement terrible qu'une certaine nuit, les premiers-nés de l'Égypte seraient détruits. Et que pour échapper à ce jugement terrible, ce n'était pas automatique parce qu'il faisait partie du peuple juif qui serait épargné. Fallait qu'il fasse quelque chose. Et on va lire dans Exode au chapitre 12, au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. » Littéralement, le mot « pessar » apparaît ici, ou le verbe « passar », et qui veut dire littéralement « passer outre ». Et littéralement, le texte dit « Tuez le passé-outre, tue l'agneau ». Puis l'agneau s'appelle littéralement ici le passé-outre. Il prend le nom de la raison pour laquelle il va être tué. « Tuez le passé-outre, tuez le Passover, tuez l'agneau ». Et donc, verset 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin ». Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ce n'était pas le temps d'aller jouer dehors. Ce n'était pas le temps de sortir de la provision que Dieu avait donnée à son peuple avec le sang qui représente qu'un substitut est mort à la place du premier-né et que tout le monde maintenant est à l'abri dans la maison, à l'abri sous le sang. Et quand l'ange de la mort viendrait avec ce jugement terrible, eh bien, ceux qui sont à l'abri maintenant, le jugement va passer outre. Le jugement va « pessar », le jugement va « pass over ». Et là, le mot est investi de sa signification. On est dans une société qui change tous les mots, tout le sens. J'ai même entendu quelqu'un dire aujourd'hui, on est dans une ère postmoderne. Un livre ne signifie plus ce que l'auteur a signifié, mais ce que toi, tu veux bien lire dedans. Donc, tout est devenu relatif. Mais lorsqu'on plonge notre attention dans les Écritures, on veut aller trouver à la signification que Dieu, lui, va investir. Et donc, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans votre maison. Verset 27, à la fin du discours, parce qu'il dit, vous allez faire cela comme une fête perpétuelle. C'est fantastique que les Juifs font encore ça aujourd'hui comme un témoignage de l'Exode. Et à la fin, lorsque votre enfant vous demander, c'est quoi qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Vous allez répondre au verset 27, c'est le sacrifice de Pâque, c'est-à-dire le sacrifice littéralement de la passe par-dessus en l'honneur de l'Éternel. Et maintenant, il va l'expliquer qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Pour revenir à 1 Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, Paul nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. » Puisque Christ, notre passé outre, a été immolé. C'est ça que Paul est en train de dire. Car Christ, l'agneau qui est investi de cette tâche d'être un substitut, est mort. Il est devenu notre passé outre. Le sacrifice, la provision divine, le substitut a été immolé. Le sang de son sacrifice n'est pas appliqué sur des poteaux de porte ou un linteau physique, mais appliqué dans la vie du croyant, sur le cœur du croyant. Et dans ce sens, l'accomplissement complet de notre Pâques ou de notre Passover est encore futur. Nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Le sang de l'agneau est sur la maison de Dieu, mais lorsque nous mourrons, lorsque nous serons enlevés ou qu'on va se retrouver dans la présence de Dieu pour faire face au jugement, alors le jugement va arriver et Christ va dire un instant, il est sous le sang, il est sous la provision de la croix du calvaire. Maintenant, le jugement a passé outre et il va passer outre le croyant. Et c'est l'essence même de notre salut. Et c'est ce que ça veut dire lorsqu'on dit la Pâque, la passer outre. Et donc, un meilleur mot pour nous, les chrétiens, serait de célébrer la résurrection, de dire « joyeuse, joyeuse journée de résurrection » ou « joyeuse résurrection » pour enlever cette ambiguïté. Et dans Luc, au chapitre 1, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner, mais nous voyons que cette résurrection, dès le début du christianisme, était la pierre angulaire, si vous voulez, était le fondement sur lequel tout a été bâti. C'est ce sacrifice, par ce sacrifice et uniquement par ce sacrifice et par la foi dans ce sacrifice que nous sommes sauvés, que les péchés sont effacés. Et cela n'est pas juste une croyance arbitraire parce que ça nous fait du bien ou quoi que ce soit, mais c'est ancré dans un événement historique de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Je peux croire tout ce que Jésus dit parce qu'il est ressuscité. Je peux croire tout ce que l'Ancien Testament dit parce que c'est tout endossé par Jésus à cause de la résurrection. C'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 encore, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et il n'y a rien qui se passe. Jésus vient d'être réduit au rang des humains, car tous ont péché et sont séparés et doivent mourir et faire face au jugement. Mais lui, puisqu'il était fils de Dieu, il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Et à cause de cela maintenant, il nous sauve. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il accomplit est vrai. Et cette résurrection met le christianisme complètement à part de tout autre système. Il n'y a rien d'autre comme ça qui existe dans le monde des croyances. Et dès le début, on voit dans Luc, lorsque ce livre merveilleux débute, Luc dit à cet homme qui s'appelle Théophile, au verset 1, « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Dès le commencement, en parlant de son ministère, de ses miracles, des signes qu'il a fait, de son enseignement, de ses déclarations, de son identité merveilleuse, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, verset 3, après qu'il eut souffert. Et ça fait mention ici de sa mort expiatoire, sa mort qui a expié le péché, qui a subi le jugement de Dieu, qui a absorbé, imaginez, l'infini jugement de Dieu dans ces quelques heures, parce qu'il était fils de Dieu, était capable de le faire, et qu'il a souffert. Et ensuite, il leur apparut vivant, faisant mention de la résurrection. Et il en rendonna plusieurs preuves, et on n'a pas le temps d'aller dans toutes les preuves que Jésus a données, mais il dit à Thomas, « Touche-moi, regarde mes mains, regarde mon côté. C'est un fantôme, donnez-moi à manger, je veux manger, est-ce qu'un fantôme mange? » Et plusieurs preuves comme ça, même ailleurs, ça dit qu'il s'est montré à 500 personnes à la fois à un moment donné. Et ça continue ici, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Évidemment, cela faisait référence à la Pentecôte, 10 jours plus tard, après son ascension, alors que les apôtres et les disciples sont réunis. Le Saint-Esprit, maintenant, est envoyé et fait de l'Église sa demeure. Et cet événement, encore, est un événement surnaturel, impossible à créer, impossible à imiter, puisque des gens, des Juifs sur place, ont parlé en plus de 15 langues connues. C'est un miracle extraordinaire. Imaginez si je commençais à vous parler en chinois et que ce serait confirmé par quelqu'un. Hey, « Tu parles chinois? » »« Non, je ne parle pas chinois. Qu'est-ce qui se passe? » C'est quelque chose de surnaturel. Mais pas juste une langue, juste ça pourrait être un hasard, mais 15 langues distinctes, comprises, qui parlent des merveilles de Dieu. Et les gens qui sont là, on peut comprendre, mais sont complètement, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on vous entend? Et là, il commence la prédication. Ceci, c'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu que vous avez crucifié, il est ressuscité et il leur prêche l'Évangile et leur cœur est touché et cette résurrection est mise d'avant comme la pierre angulaire de toute l'histoire. Et depuis 2000 ans, ces événements sont enchâssés pour nous. La crucifixion, la résurrection, ces signes merveilleux de la Pentecôte sont enchâssés pour nous dans les Écritures et nous pouvons déclarer avec la même assurance que les premiers disciples, avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui est le même qui était en eux, qui est en nous et qui réside dans l'Église depuis ce temps-là. Il n'a jamais quitté, il est permanent, un résident permanent, afin que chaque personne qui se joint à l'Église est maintenant instantanément attachée à l'Esprit de Dieu et le Père et le Fils et l'Esprit font leur demeure en lui et nous avons la même assurance pour déclarer avec certitude, au-delà de tout doute raisonnable, parce qu'il est ressuscité, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix comme un substitut, comme notre Passover, comme notre Pâque, et qu'il est ressuscité pour prouver à tous, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il est le Christ, le Sauveur. Et pour cela, maintenant, il est remonté au ciel. Il revient bientôt boucler la boucle de l'histoire et établir son royaume et le règne de Dieu à jamais. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il est écrit que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Alors, il y a un soupir dans nos cœurs. Alors que nous voyons les bouleversements causés par C'est un microbe microscopique qui est en train de mettre l'économie à terre, qui est en train de créer un bouleversement comme on n'a jamais vu dans notre vivant. Enfin, je pense que je peux dire ça de mon vivant. En tout cas, j'ai jamais vu, été témoin d'un tel bouleversement. On parle d'une crise pire que la Grande Dépression de 1929. On parle d'une crise beaucoup pire que 2008 et toutes ces choses-là. Donc, et tout ça est causé par un être microscopique, mais à travers tout ça, il devrait y avoir un soupir dans notre cœur pour le jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden est perdu, mes frères et mes sœurs. Et ce qui s'en vient, c'est l'éternité avec Dieu, où est-ce qu'il va restaurer toutes choses et que nous puissions soupirer pour cela. Mais en attendant, l'Esprit a un message, Dieu a un message, et nous sommes associés. Apocalypse 22, l'Esprit et l'Épouse qui est l'Église, est associée à l'Esprit et elle dit quelque chose, elle a un message, il y a un message, viens Seigneur Jésus. Et celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut aussi prenne de l'eau de vie gratuitement. Et il y a ce soupir qu'on appelle la venue du Seigneur, mais qu'on appelle aussi nos semblables à s'approcher de Christ. N'ayons pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et quiconque se confie en lui est en sécurité dans la maison de Dieu. Le sang de Christ est sur sa vie. Et on revient à l'image de l'Exode. Nous sommes dans la maison, mais ce n'est plus une maison physique, c'est la maison de Dieu. Et le sang de Christ est sur sa vie. Et lorsque le jugement dernier va venir et va passer outre, parce que le substitut a déjà subi ce jugement-là. Avez-vous cette assurance dans votre vie? Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas encore compris ou qui n'a pas encore cédé sa volonté, qui croit encore qu'il peut tirer quelque chose de ce monde, qui croit encore que le christianisme est juste un plus, un appui quelconque pour le succès dans ce monde. Eh bien, le christianisme, c'est loin d'être un appui pour le succès dans ce monde. Le christianisme, c'est le plan de rédemption, c'est le plan de rachat, c'est le plan de notre salut. Est-ce que vous avez été convaincu de péché dans votre vie? Est-ce qu'il y a une conviction du péché dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Parce que, vous savez, au début de son ministère, lorsque Jésus commence, il dit « Le royaume des cieux est proche ». Repentez-vous. Marc, chapitre 1, verset 15. Et à la fin, et ce que nous voyons maintenant, les soubresauts que nous voyons, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver à la fin. Lorsque ça dit que les jugements de Dieu vont tomber tellement que les hommes vont se tordre de douleur. Et il y a ce commentaire à la fin, avant le retour physique de Christ sur la terre. Et il est écrit qu'il refuse de se repentir. Et c'est là que ça se joue. Lorsqu'une personne est convaincue de qui Jésus est, convaincue de son péché, convaincu que Christ est mort à la croix, il va céder sa vie et il va se repentir, il va écouter les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, à cause de la résurrection historique de Christ, notre passe par-dessus, notre Passover, notre Pâque, nous pouvons dire avec Paul, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Car j'ai l'assurance. Et ça, c'est important d'avoir ça dans notre cœur. D'avoir une assurance comme une ancre dans l'âme. Il est écrit ailleurs. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni le coronavirus, ni l'effondrement économique, ni la distanciation sociale, ni toute autre situation ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un moment d'arrêt et un moment de réflexion, un moment de prière. C'est difficile avec de pas être ensemble et de faire quelque chose comme ceci, mais concentrons-nous pendant un instant sur une réponse à ce qu'on vient d'entendre. C'est l'Évangile. C'est basé sur la gloire de la résurrection. Mais qu'on puisse se tourner vers Dieu pendant un instant. Et je vous invite, ceux qui ont accès à un clavier, d'écrire quelque chose et de compléter cette phrase, que ce soit notre prière ce matin. Parce que tu es ressuscité, je peux. Et là, remplissez quelque chose. Et prenez un instant, même à la maison, qu'on puisse compléter cette phrase. Parce que tu es ressuscité, par exemple, je peux vivre en paix. Et gardez ça, si vous allez écrire juste quelques mots, gardez ça court. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, écrire des longues, qui sont inspirées des fois. Mais on veut juste faire de la place pour tout le monde. Et on va faire ça pendant quelques instants. Prenons un temps pour clôturer avec un mot de prière. Seigneur, parce que tu es ressuscité, je peux marcher dans la victoire. Oui, je peux vivre avec assurance, Seigneur. Je peux avoir un esprit serein. Seigneur, je peux avoir la paix. Parce que tu es ressuscité, Seigneur, je n'ai aucune crainte. Je peux être libre. Je suis en sécurité. Je suis assuré, Seigneur, parce que tu es ressuscité. J'ai l'assurance que tu peux me pardonner
que tu vas me ressusciter. Seigneur, parce que tu es ressuscité, je serai avec toi pour l'éternité. Et Seigneur, à cause de ta résurrection, tu nous assures que tu vas nous ressusciter. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ces enseignements qui sont une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, qui est une nourriture pour nos âmes. Et on est comme des gens qui s'assemblent autour d'un feu de camp pour être réchauffés, mais ce n'est pas un feu qui nous assemble, c'est ta parole, Seigneur, qui nous donne la vie, qui nourrit nos âmes, parce que ta parole est un pain qui nourrit nos âmes. Et Seigneur, ce matin, je prie que ces vérités puissent trouver leur place dans nos cœurs, que tu puisses apaiser ceux qui sont craintifs, que tu puisses convaincre ceux qui ont besoin de conviction et que tu puisses nous aider tous à nous approcher de toi. Mais Seigneur, dans cette journée, que la pensée ou la réalité de la résurrection puisse être comme un flambeau mis sur une montagne qui brille et qui illumine le monde entier. Et oui, Seigneur, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Bénis ton Église, Seigneur, dans la Mauricie. Bénis ton Église dans cette nation. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et joyeuse journée de la résurrection.